Merci, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, j'aimerais vous féliciter, vous ainsi que le groupe de travail, pour le sérieux de votre engagement, pour la profondeur des questions, des commentaires qui ont été posés. Il s'agit de la première session de votre groupe de travail. Tout cela est très rassurant. Il est rassurant de voir que vous êtes plein d'énergie, d'engagement, que vous faites preuve de créativité. Alors, en tant qu'observateur, cela me donne confiance, cela me donne une raison d'espérer. Je pense que vous aurez la possibilité de remplir les demandes de l'Assemblée générale concernant les principes sur la préservation de l'espace. Je vais répondre à plusieurs des commentaires qui ont été posés en vous rappelant tout d'abord que il existe deux méthodes complémentaires, en principe, qui permettent de compléter le droit et les principes internationaux sur la sécurité dans l'espace, la sûreté dans l'espace. Une première méthode, c'est d'interpréter de manière créative et de renforcer les textes existants, les textes, principes que nous connaissons et que nous pouvons appliquer sous de nouvelles formes et de manière créative à l'espace. La deuxième manière, c'est de constituer de nouvelles législations. Je vous rappelle que ces deux méthodes ont leur importance, qu'elles peuvent être utilisées de manière complémentaire, et je pense que ce groupe pourrait avoir des contributions importantes à faire dans ces deux domaines. Une grande partie des discussions d'aujourd'hui se sont concentrées sur l'utilisation renforcée de termes et de documents existants, comme le traité sur l'espace ou d'autres éléments du droit international. Donc, utiliser des principes existants que nous connaissons, qui peuvent s'appliquer sous de nouvelles formes ou de meilleures formes. Je soutiens ce principe, mais le droit international, à mon sens, s'est trouvé dans une situation de blocage par rapport à l'espace, parce que nous ne voyons pas de nouveaux instruments juridiquement contraignants positifs développés au cours des dernières décennies. C'est un problème auquel nous devons répondre dans un avenir proche. Je passe à la question spécifique qui concernait ma présentation, qui a été posée par le Brésil et reprise par d'autres. Il existe un grand nombre de façons dont nous pouvons mettre à profit, dont une utilisation double de l'espace ne peut pas être séparée. Parfois, un même satellite est utilisé à des fins militaires et civiles, et on ne peut plus demander que ces activités soient séparées. Mais dans certaines circonstances, cette séparation est faisable. Cela n'est pas toujours fait à l'heure actuelle, mais il serait parfois possible de séparer ces activités. Et en ce qui concerne le droit des conflits armés, eh bien, il n'existe pas de catégorie concernant cette utilisation double. Au titre du droit sur les conflits armés, tout objet est soit un objet civil, soit un objet militaire. Si un objet est utilisé de manière double, alors cela en fait un objectif militaire susceptible d'être ciblé. Je pense qu'il existe des cas de violation de ce droit. Je pense notamment au cas où on pourrait avoir un satellite qui serait composé d'éléments civils et militaires. On pourrait avoir deux transpondeurs, par exemple, un pour des objectifs militaires, un pour des objectifs civils, mais qui seraient opérés depuis le même satellite. Eh bien, de mon point de vue, c'est un choix qui a été fait. L'option existait et le pays a choisi d'avoir dans le même satellite ces deux fonctions. C'est là où je crois que c'est cela que le droit sur les conflits armés doit éviter, à mon sens. Si on peut séparer ces deux objets, alors dans un GPS ça n'est pas possible, mais dans beaucoup d'autres contextes ça l'est. Comme beaucoup d'entre vous le savent, identifier un objet comme une cible militaire n'est pas le point final de l'analyse militaire. Ensuite, on a le principe de proportionnalité. Si on a une attaque ou une attaque préparée à l'encontre d'une cible militaire, il faut également évaluer les dégâts collatéraux inévitables, même s'ils ne sont pas prévus, à l'égard des civils. S'il y a disproportionnalité entre les objectifs militaires atteints et les pertes civiles, alors on ne peut pas mener à bien cette attaque, ou pas de cette manière, pas à ce moment-là. La situation doit être revue afin de s'assurer que le principe de proportionnalité soit respecté. C'est en tout cas l'étape suivante dans l'analyse militaire. Identifier une cible militaire, c'est une première étape, mais ça n'est pas la seule. Je pense qu'il y a également un point auquel nous n'avons pas porté suffisamment attention aujourd'hui, c'est que le traité sur l'espace crée un règlement inhabituel en matière de droit international concernant les activités privées et commerciales. Dans le droit international traditionnel, dans la plupart des cas, un État n'est pas tenu comme responsable pour les actions de ses ressortissants. Si vous êtes blessé, que vous souffrez des dommages aux mains d'un individu ou d'une entreprise, c'est cet individu ou cette entreprise qui est responsable et non pas l'État dont cet État ou cette entreprise est ressortissante. Dans ce cas-là, l'État n'est pas responsable des actions nuisibles de ses ressortissants. Alors que dans ce traité, on a un règlement qui est différent. Il est considéré que l'État est responsable des activités dans l'espace de ses ressortissants. Ce règlement, parce qu'il est différent, veut dire que dans l'espace, les actions des entités privées sont du ressort de l'État dont elles sont issues. Et il est parfois difficile de dire quel est l'État responsable, mais en tout cas, on a une obligation renforcée en ce qui concerne l'utilisation pacifique de l'espace au-delà des acteurs étatiques, une obligation qui s'étend